Gay.
Eh bien voilà, je suis à l'antenne comme ça, sans transition, et je suis très heureux de vous retrouver, de retrouver tous mes chers auditeurs et toutes mes chères auditrices sur les ondes donc de Pluriel Gay, l'émission du 2 décembre. Donc alors c'est un peu spécial ce soir puisque d'abord j'ai laissé toute ma petite équipe à la maison, je suis tout seul à la radio, j'ai peur, mon Dieu, j'ai peur, il y a peut-être des fantômes ici. Ce soir, j'ai donc décidé de réaliser un petit hommage au sieur Jeffrey Jordan. Pour ceux qui ne le connaîtraient pas encore, et puis aussi pour ceux qui le connaissent déjà, c'est l'occasion donc d'écouter cette émission. Alors, Jeffrey Jordan, pourquoi ? Alors, d'abord, je tiens à préciser, Jeffrey Jordan n'est pas mort. Parce qu'un hommage, en général, on fait souvent quand les gens sont morts, mais lui, il est bien en vie, je rassure tout le monde, au cas où certains s'inquiéteraient un petit peu pour lui. Non, non, il est bien en vie. Et pourquoi cet hommage ? Parce que, d'abord, il chronique régulièrement chez nous, et surtout parce que c'est d'abord quelqu'un que nous aimons bien, même beaucoup, et puis parce qu'il a beaucoup de talent. Donc, pour ceux qui ne le connaîtraient pas, mais aussi pour ceux qui le connaissent déjà, c'est l'occasion donc de voir un petit peu ce que fait notre petit Jeffrey Jordan dans la vie de tous les jours. Alors, il faut savoir que Jeffrey Jordan, c'est un artiste, je l'ai dit. C'est surtout un petit Zébulon. Moi, il me fait penser à Zébulon. Alors, je ne sais pas pour ceux qui se souviennent du Manège Enchanté, c'est très vieux. Moi, je suis très vieux. Même Jeffrey Jordan n'était pas né à l'époque du Manège Enchanté. C'était à la télé. Il y avait un petit personnage Zébulon. Ding, ding, il sautillait dans tous les sens. Ben, moi, il me fait penser un peu à Zébulon, notre Jeffrey Jordan. C'est notre petit Zébulon de la scène comique lyonnaise. En fait, nous, ici, à Pluriel Gay, on l'a découvert en 2014, mais il existait bien avant. Et un jour, on l'a rencontré, on a aimé ce qu'il a fait, on a vu son spectacle, qui depuis a beaucoup évolué encore, et lui a proposé de faire des chroniques, il a accepté, il a même fait pour nous des choses extraordinaires, puisqu'il a été envoyé spécial, et au péril de sa vie, réaliser des émissions, je dis bien au péril de sa vie, il a réalisé des émissions pour Pluriel Gay. Nous ne pouvions que l'en remercier et lui rendre cet hommage, donc de ce soir, pour Jeffrey Jordan. Comment va se dérouler cet hommage ? Je vais aller très vite, hein, parce que là, j'ai déjà été pas mal bavard. En fait, on va passer des extraits de ses prestations, hein, de ses contributions pour Pluriel Gay, pour l'émission Pluriel Gay. Alors, on a compilé quelques-unes de ses interventions ici à la radio. Et au passage, je tiendrai à remercier Gilles, qui a réalisé les montages. Gilles, c'est mon chéri, entre parenthèses. Qui, donc, a réalisé les montages sonores de cette émission. On va commencer, donc, par... Je vais commencer par diffuser. Vous diffusez, donc, la première apparition, tchung, si on ose dire, à la radio, parce que, bon, une apparition à la radio, de Jeffrey Jordan. On l'avait invité à l'émission pour nous parler de lui et de son spectacle. On va l'entendre tout de suite, Jeffrey Jordan.
Je n'aurai pas l'occasion de le voir parce que nous sommes à la radio, je répète, c'est dommage parce que...
Ni de me sentir, c'est dommage.
Oui aussi, enfin ça c'est peut-être moins...
Il est
moins...
beau gosse.
Ah bah je vous remercie Laurence.
Oui pas mal. Hein,
je vous remercie, mais je ne suis pas intéressé.
Voilà.
Mais ça ne vous empêche pas d'être charmante.
Ah, oui.
Bon, je m'excuse de vous déranger, mais donc Jeffrey est là. Alors Jeffrey, déjà il y a une chose, avant de parler de toi, me parler de ton prénom. Jeffrey, bon, Jeffrey Jordan, etc. On suppose que c'est un nom d'artiste, mais Jeffrey, c'est écrit J-E-F-E-R-E-Y. Il faut le prononcer comment?
Mais parce que c'est américain, Jeffrey Jordan.
Ah oui, c'est ton vrai nom.
Oui, parce que j'aspire à une tournée internationale. Pas du tout, c'est pas mon vrai prénom.
Ah,
moi,
pas
j'ai
le
un prénom italien, donc ça n'a rien à voir.
Très bien.
Parce que ma mère est italienne, mes grands-parents sont italiens, donc voilà, j'ai un prénom italien qui est très androgyne d'ailleurs. Et j'aurais pu effectivement l'utiliser le spectacle, vu que le thème du spectacle s'y prête.
J'ai trouvé ce que c'est.
Très androgyne, Michele.
On va voir si vous...
Ça commence par
jusqu'à
un
la
A.
Fin de l'émission.
Ça commence par un A.
Ça commence par un A.
Andrea.
Ah mince, alors Gérald, il nous a spoilé le suspense. Ouais. Il n'y a plus de suspense, je m'en
Andrea.
Vais. Je quitte le plateau.
Oui, mais c'est
il
n'y
a que des Italiens autour de la table, donc.
Voilà, c'est ça. Comme moi, je suis aussi d'origine italienne, c'était facile.
D'accord.
Très facile pour moi. A, Andrea, androgyne, pas de problème.
Lance-nous Pavarotti, Bernard. Ça va nous bien.
Voilà, on peut faire l'émission en italien, même non, peut-être pas.
Non, je ne parle pas un mot d'italien, donc c'est même pas la peine.
Non, non. Moi, je connais quelques mots de patois. Du bled de ma grand-mère, mais on est
ah,
en
Auvergne.
Ouais.
Toi aussi, t'es d'origine italienne.
Oui, mais je te l'ai déjà dit plein de fois.
De quel patelin tu viens, toi, ta famille?
De Naples et de. Comme toi en plus, je te l'avais dit.
Oui, mon grand-père était napolitain. Ouais.
Et d'un bled vers Pise.
D'accord.
Bon. Où sont les toilettes?
Pardon. Mais en fait, Jeffrey, t'es, bon, certes, tu es descendant d'immigrés italiens, n'est-ce pas?
Oui.
Mais aussi auvergnat.
Bah voilà, c'est pour ça, oui, j'entendais le patois, je parle du le patois, oui, bah oui, Auvergne aussi.
Ça fait beaucoup de choses cumulées en une seule personne, quand même, déjà.
Oui, c'est un, bah, pas mal d'handicap, hein. D'abord un nom de scène à la con, un nom de scène un peu années 90, comme je le dis dans le spectacle, ça nous fait penser aux séries Grand Gardé, Melrose Place, Alerte à Malibu, ils avaient tous des prénoms très américains, comme ça. Mmh. Et mon père aimait beaucoup les prénoms américains, mes frères s'appelant Kevin et Brian, voilà. Non mais c'est vrai en plus. Et du coup, j'ai voulu choisir ce nom un peu à l'américaine. C'était un choix en fait, parce qu'en fait, ce sont mes deux autres prénoms à l'état civil. Si vous voulez, à l'état civil, je m'appelle Andrea, Jeffrey Jordan. Et donc, du coup, j'ai choisi ces deux prénoms-là. D'accord. Non pas parce que je les trouvais beaux, mais parce que ma mère me les avait gentiment attribués.
Et donc, Jeffrey, salut, je prononce bien, hein. Jeffrey. On peut dire comme ça, Jeffrey.
Ah oui, si ça vous amuse.
C'est bien, voilà. Oh, ça m'amuse
toujours
énormément.
Avec l'accent, Gérald, tout le temps.
Jeffrey, vous êtes une entertainer. On peut dire ça comme ça. T'as vu la classe.
Ah oui,
la
oui. Hein, j'y vais pas vu sous 7 ans.
Bah, je sais pas, une carrière à l'américaine, Las Vegas, tout ça, ça le fait.
Ah oui, je sais pas s'ils comprendront grand chose, par contre, à Las Vegas. À part Céline Dion, je sais pas.
Ah ben, faut se mettre à l'anglais, c'est tout. Oui, Céline Dion, je chante en anglais.
J'irai faire les premières parties de Céline.
Donc, en fait, tu es un artiste, voilà, tout simplement. Un artiste performeur.
Je vous remercie d'avoir remarqué. Ce que m'auriez dit. Oui, voilà, puisqu'en plus, je fais du violon sur scène.
Oui, oui, oui. Alors, le violon, on voulait en parler, justement. Oui. Mais on en parlera plus tard, parce que c'est ton compagnon. Quand je dis que t'es seul sur scène, t'es aussi avec ton violon. T'es pas vraiment seul.
Non.
Voilà. Parce qu'à la base, Jeffrey, parce que son spectacle, tu sais, Lolo, est très autobiographique, quand même.
Vous n'êtes pas venu me voir, Laurence?
Non.
Bah, vous serez
pas encore.
Non. Pas encore. Pas encore. Il y a de la place encore pour dimanche. Comme ça, la promotion est assurée pendant l'émission.
Voilà. Et du coup, c'est un peu, même largement autobiographique, on apprend plein de choses à ton sujet. On apprend effectivement que tu es venu à Lyon pour le conservatoire de musique.
Non, c'était en Auvergne.
Le conservatoire de musique, c'était en Auvergne.
Oui, c'est... Attention, moi, c'est de la fiction quand même, le spectacle. Suivi. J'ai pas dit que tout était vrai. Hein,
D'accord.
Alors que je sois petit et féminin, ce que je dis en.
Mais c'est l'avenir de l'homme. C'est l'avenir de l'homme.
Mais je suis l'homme du futur. Mmh. Et ça, c'est ça. Les gens n'ont pas encore conscience de ça. C'est pas encore dans les mœurs.
Ils ont peut-être peur, non, tout simplement, de l'avenir.
Ah bon, je fais peur. Merci, Gérald. Alors bon, je suis une figure emblématique de la peur.
Donc, tu as ton spectacle qui est en partie autobiographique, même s'il y a peut-être des choses à rajouter ou enlever. Je ne sais pas, parce que tu ne dis pas tout, évidemment. Moi, ça me fait penser à Tapette décomplexée.
Ah. Pourquoi je vais vous quitter, hein?
Voilà.
Non. C'est très assumé comme spectacle.
Voilà, c'est ça. Parce que je veux dire, c'est vrai qu'il y a une tendance à dire, ouais, mais il faut paraître bien sous tous les rapports, surtout que le mariage pour tous, tout ça, faut donner une bonne image. Je dis pas qu'il donne une mauvaise image, des frais sur scène, mais au moins, il assume tout ce qu'il fait, tout ce qu'il dit. Hein, c'est ça? De façon très naturelle.
C'est un peu ça, voilà.
En gros, il dit, moi, je suis une tapiole, et puis voilà. Hein, en gros, c'est ça, c'est ce que tu dis, on pourrait
dans la deuxième partie du spectacle.
Voilà. Mais dans la première, on comprend tout de suite que c'est une
tapiole.
Souviens-toi,
Gérald, la première partie, elle n'est pas évidente, elle n'est pas claire. C'est pas clair tout de suite. Bon, vous aviez compris, mais parce que voilà.
Parce que je suis très perspicace.
Parce que vous avez l'œil acéré.
Voilà, c'est ça. Et du coup, donc, ton spectacle, donc, c'est un one-man show, on va dire.
Ouais.
Ça ressemble aussi un peu à du stand-up, il y a un peu de mélange des deux, il y a un peu d'impro.
Il y a un peu de tout.
Un peu d'impro en fonction du public, il y a une interaction avec le public.
Voilà, en fonction du public, oui. On est au café-théâtre, hein, donc on reste au café-théâtre, il y a une proximité à conserver avec le public. Mais je dirais que j'essaye d'aller plus vers le seul en scène, c'est-à-dire vers une comédie seule, où il y a un fil conducteur, où on rentre dans des tableaux, dans des personnages, des scénettes. Et puis, il y a toujours place à l'humour et puis aussi la place à l'émotion. Mmh. Ça, j'imagine que vous alliez en parler.
Mmh. Non, mais on viendra à l'émotion, au côté émotionnel, évidemment, du spectacle. Mais il y a quand même le côté comique qui ne nous a pas échappé. On rit quand même pas mal et on rit justement de nos défauts. Alors, l'avantage, c'est quand un homo rit de lui-même, tous les homos rient, évidemment.
Oui. Et pas toujours.
Pas toujours. Normalement. Alors, c'est vrai, pas toujours. Parce qu'il y a justement, parfois, maintenant, on est homo, il faut être comme ci, comme ça, il faudrait un petit peu formater. Mmh. Et puis toi, tu dis, moi, je m'en fous, je suis comme je suis, je suis homo, et puis je vous emmerde, en gros, c'est ça. Hein?
Alors, c'est un peu ça, et puis c'est surtout parce que...
Ça peut être le titre du spectacle, peut-être.
C'est Jeffrey... Homo, non, c'est Jeffrey Jordan s'affole. Voilà.
Voilà. Et il s'affole pourquoi? Mais le type qui parle de lui à la troisième personne. Non, je m'affole pourquoi? Parce que je me sens pas du tout correspondre au milieu gay, en fait. C'est ça qui est drôle. Et c'est ça que je voulais dire dans le spectacle. C'est-à-dire que je m'adresse autant aux hétéros qu'aux homos, qu'aux vieux, qu'aux jeunes, aux hommes, aux femmes. Je m'adresse vraiment à tout le monde. Et Et j'avais envie de montrer que, oui, vous avez raison, les homos sont peut-être folles, les homos sont peut-être comme ci, comme ça. Vous avez raison de nous poser la question, c'est qui fait l'homme, qui fait la femme. Vous avez raison de nous reprocher de ne pas connaître les femmes, ou à une lesbienne, par exemple, de ne pas connaître les hommes. Vous avez raison. Sauf que arrêtez de nous poser quand même les questions. Au final, on est comme vous. Et c'est ça, en fait, le discours du spectacle, et de tout le spectacle. C'est vous avez raison, vos clichés, au final, les clichés sont peut-être vrais, mais on n'est pas tous comme ça. Voilà. Je ne dis pas que je suis un modèle de vertu, et je ne dis pas que je suis un exemple, hein, d'homosexualité, mais je dis que voilà, il y en a d'autres aussi. On est des catégories aussi chez les homos, ça j'en parle pas, mais peut-être ça sera le sujet d'un prochain spectacle, mais, ouais. Mais voilà.
Néanmoins, le public quand même, moi le jour où j'y suis allé, c'était peut-être le hasard, était composé essentiellement de gays masculins, beaucoup d'hommes.
D'accord.
Et des gays.
Mais c'est parce que je suis physiquement...
Intéressant.
Ah, il n'y a plus personne, hein. Non, c'est pour déconner. Mais oui, j'ai pas mal de public gay. Puis la presse gay me suit aussi pas mal. Mmh. Hétéroclite. Enfin, la presse, en règle générale, m'a suivi. Les blogs gays, les agendas gays sur Internet, etc. Mmh. Ça a fait le tour. Et puis, voilà, il y a eu certainement du bruit qui s'est fait. Enfin, voilà, les gens en ont parlé. Tant mieux. Je m'adresse pas qu'à un public gay, par contre, parce que ce serait un peu réducteur.
Ouais, ouais.
Et il faut savoir que le public gay est un public très difficile. J'en reviens à ce que tu disais, Gérard. C'est un public qui est difficile parce qu'on parle d'eux, en fait. C'est comme si, moi qui suis bien français, je faisais une blague raciste, ben, on me prendrait mal, alors que des gens comme Jamel Debbouze, Jamel Mallet, peuvent faire des allusions un peu racistes. Ça passe. Ouais. Moi, ça passerait pas. Alors que, voilà. Donc là je les touche directement.
Voilà. Eux. Dans ta bouche, c'est différent.
dans ma bouche, c'est forcément différent, Gérald, enfin.
On se dit, les mêmes mots sont différents. On va pas te taxer d'homophobie, évidemment. C'est ce qu'on appelle l'autodérision, un petit peu, oui. l'humour gay. C'est un peu l'équivalent de l'humour.
Ah, c'est
juif.
L'autodérision, du début à la fin.
Hein. Oui, oui.
Du début à la fin.
Voilà. Alors, donc, comme je le disais initialement, basiquement, tu te destinais à une carrière de musicien, de violoniste.
Oui, à la base. J'avais fait le conservatoire, j'ai fait 10 ans de violon.
Ouais.
Et 12 ans. Je dis une connerie. 10 ans de violon et j'ai fait 13 ans de solfège. Et en fait, au début, dans mon premier spectacle, qui s'appelait Jeffrey Jordan, zéro défaut, c'était encore très humble. C'était pas du tout mégalo. Non, parce que justement, dans le spectacle, c'était tout le contraire, j'ai plein de défauts. Bref, et ben dans ce premier spectacle, je n'avais pas de violon. Et on m'a dit, mais attends, t'as fait 10 ans de violon, fais-nous rire avec ton violon. Alors, autant vous dire qu'il y avait du travail, parce qu'un violon, c'est pas spécialement drôle, à la base. Et puis, j'ai écrit, effectivement, une partie de ma vie. J'ai rencontré ma metteur en scène qui m'a demandé de me confesser, quoi, finalement, dans mes textes. C'est ce que j'ai fait. Et après, j'ai rendu tout ça faux, on va dire. J'ai tout détourné parce que je suis pas obligé non plus de tout dévoiler de ma vie. Mais parce que ça se trouve, je suis même pas gay. Gérald, arrêtez de me regarder comme ça. Tout à l'heure, Laurence. Non, voilà. Donc, j'ai dit, je ne veux pas tout dire non plus. Et donc, le violon est venu. Je lui ai trouvé une importance. Parce que, sur 23 ans de ma vie, j'ai quand même fait 14 ans de violon. Presque 13 ans de violon. 13 ans de musique. Donc, c'est la moitié de ma vie, pratiquement, pour l'instant. Voire plus. Donc, c'est mon violon qui a partagé ma vie.
D'accord. C'est le même violon depuis le début.
C'est le même violon depuis le début.
Ouais.
Voilà. Jean-Jacques.
Ah oui.
Et oui, il s'appelle Jean-Jacques, le violon.
Oui.
Et pourquoi Jean-Jacques ?
Parce que c'est le prénom de mon père, Laurence. Mais c'est vrai en plus, c'est le prénom de mon père. J'avais envie de l'appeler Jean-Jacques.
Ouais.
Alors du coup, au moment où ils se rencontrent, d'ailleurs, les deux Jean-Jacques se rencontrent. Et je trouve ça marrant, Jean-Jacques, c'est un prénom un peu passé, mais je trouve ça marrant, j'aurais pu l'appeler Jean-Claude ou Gérald.
Ou Gérard.
Merci.
Oh, on rigole.
Moi, je suis susceptible, on ne t'avait pas dit.
C'est vrai.
Bah, c'est beau, un violon.
Oui, c'est très beau. C'est vrai, ça a des formes assez harmonieuses.
C'est bien roulé ?
Oui,
c'est bien roulé. Voilà.
C'est quoi comme violon, un Stradivarius ?
Bien sûr, oui, je suis très fortuné, moi je gagne beaucoup d'argent. Parce que vous avez vu, les salles sont remplies et puis l'entrée est chère, hein. Ça, 70 euros un café théâtre, il faut y aller. Donc du coup, ça m'a permis d'acheter un Stradivarius électrique, électromagnétique. Voilà. C'est-à-dire que je n'ai pas besoin de prendre l'archet, il joue tout seul.
Ouais.
Génial.
Et d'ailleurs, c'est l'objet, enfin, ce violon qui est quand même un des acteurs, donc un principal avec toi. Vous êtes deux sur scène avec le violon. On peut
peut le dire. C'est, ça fait l'objet justement d'une sorte de coming out que tu fais auprès de ton père, c'est ça, avec ton violon.
Bon, de mes parents, oui.
Hein, auprès de tes parents.
Ouais. Mmh. Voilà, c'est une sorte de coming out, c'est-à-dire que je dis que je suis violoniste. Alors, c'est pas facile d'être violoniste.
Hein. Ouais.
On fait tous les déboires. Alors, je vais pas vous refaire le spectacle maintenant, mais ouais. Quoi que je pourrais, si vous voulez.
Oui, non, mais il faut aller le voir. Ça s'entend et ça se voit aussi.
Voilà, ça se voit. Ouais, ouais.
Ça se voit.
Il y a une très belle mise en scène qui a été faite par Nao, un metteur en scène, et voilà, faut... c'est aussi visuel, ouais.
Ouais. Ouais.
Et tes parents, justement, en parlant de coming out, est-ce qu'ils savaient, ils étaient au courant de ton homosexualité avant que tu commences à faire le spectacle, ou tu leur as tout balancé comme ça?
Oui, ils le savaient, ils le savaient. Et c'est justement ce qui m'a permis de mieux écrire, de mieux me livrer, parce qu'ils l'ont su, moi j'ai su que j'étais homosexuel à 14 ans. C'est tôt, hein, 14 ans. Enfin, c'est vrai que c'est tôt. Aujourd'hui, on dirait, bon, c'est normal. Mais 14 ans, c'était quoi, 2005. Et ouais, à cette époque-là, on n'avait même pas parlé du mariage pour tous ou quoi que ce soit. J'ai toujours eu des parents très ouverts d'esprit, et moi, c'était une évidence, en fait. Même mes grands-parents, que je salue s'ils m'écoutent, et mes grands-parents, je leur ai jamais vraiment dit, au final. Là, je vous livre un peu quelque part ma vie privée, c'est vrai, mais mes grands-parents, je leur ai jamais dit que j'étais homo et ils l'ont toujours su. Ils l'ont toujours su, c'est une évidence. Donc voilà, je l'ai toujours très très bien vécu, j'ai jamais eu de discrimination, j'ai jamais été exposé à la discrimination ou parfois au retour des gens qui m'envoient des mails en retour de spectacle. Ça peut arriver, c'est rarement ceci dit, mais voilà, ça peut arriver. Non, j'ai jamais été confronté à ça, donc ça m'a jamais fait peur d'assumer.
Okay.
Voilà, donc oui, mes parents le savaient avant. Avant que je monte sur scène.
14 ans en 2005.
Oui, et oui.
Ça fait rêver, Gérald.
Hein ?
Ça fait rêver. Ah oui. T'avais quel âge en 2005,
et Bernard,
toi ?
Imagine un peu. Si moi, ça me fait rêver, Bernard. Oui.
Il a encore la mèche. Ouais. Arrêtez.
C'est vrai.
Alors, du coup... j'avais pris des notes aussi parce que je voulais poser plein de questions et puis je les ai perdues, donc c'est pas grave.
Ah bah c'est pas grave.
Donc du coup, en fait, de la musique, tu es passé à la comédie, on va dire. Alors, tu as quand même fait pas mal d'années, tu nous as expliqué. Donc t'as tourné un petit peu avec le violon dans des orchestres.
Voilà. C'était l'été, je faisais la tournée avec l'Orchestre National de Toulouse. C'était une belle expérience.
Et que s'est-il passé alors pour que subitement tu changes d'orientation?
Alors, octobre 2006, quelqu'un qui fait sa bio en direct. Non, mais c'est vrai, octobre 2006, je m'en rappellerai. Je vais voir Muriel Robin au Zénith de Clermont.
Ouais.
Et pour la petite anecdote, c'est très drôle parce que je vais voir... il a retrouvé ses notes? Non, pas encore. Je vais voir Muriel Robin au Zénith de Clermont-Ferrand. Bah, j'adorais, c'était le spectacle Au Secours. J'adorais Muriel Robin déjà, je m'étais
tu t'es identifié?
Et je me suis identifié directement. Mais tout de suite. Et je voulais pas vraiment faire du show comme elle le faisait, elle, mais... En fait, ce qui m'intéressait, c'était l'univers spectacle. Les gens qui arrivent, le brouhaha constant, la salle qui s'éteint, les lumières qui s'allument. Tout ça, en fait, c'était une atmosphère que j'aimais beaucoup. Donc j'avais envie de rentrer, en fait, et de donner cette ambiance-là aux gens. Moi, je suis très, très à cheval aussi, même pour mon spectacle. Je suis très à cheval sur la façon dont la lumière va s'allumer, comment la musique va démarrer, l'ambiance qu'on va mettre, l'ambiance musicale qu'on va mettre pendant que les gens rentrent dans la salle. C'est quelque chose... Que j'aime beaucoup, en fait. Et cette atmosphère-là, je l'ai aimée, en fait, quand je suis allé voir Muriel Robin tout de suite. Ça m'a tout de suite fait vibrer. Alors après, j'ai vu Muriel Robin et je sais pas, j'écrivais des sketchs. J'aimais beaucoup faire l'idiot avec les amis aussi à l'école. Tous les humoristes vous le diront certainement. Et donc, du coup, je racontais des conneries. Et donc, à chaque fois que j'avais des idées, j'écrivais des sketchs. Et j'écrivais des sketchs avec en mémoire. La façon dont Muriel Robin jouait ses textes, c'est-à-dire son rythme, cette espèce d'arrogance qu'elle avait un peu, ce franc-parler. Et en fait, quand j'écrivais mes textes, c'était ça. J'écrivais avec cette même patte, quoi. Et c'est ce que je suis en train de... C'est ce que j'ai corrigé, d'ailleurs, avec ma metteur en scène, puisque jusqu'à maintenant, beaucoup de gens me disaient que c'était du Muriel Robin, quoi. Voilà.
Et à part Muriel Robin, il y a des autres humoristes qui t'inspirent ou...
Ouais, je regarde beaucoup, beaucoup d'humoristes. Et bizarrement, je n'aimais pas du tout regarder l'émission de Ruquier sur France 2 parce que il y avait trop de sketchs, en fait, et trop de thèmes. Du coup, je préférais ne pas m'inspirer des thèmes ou des choses qui auraient pu être faites à la télé. Je préfère regarder la façon dont écrivent les humoristes professionnels de maintenant, les grands, on va dire. Ah, moi, j'aime beaucoup Willy Rovelli pour son énergie, pour sa transpiration. C'est vrai. Voilà, j'aime beaucoup Florence Foresti, bien sûr, Michael Gregorio, dans son talent vocal exceptionnel, grande performance vocale. J'aime beaucoup Constance, J'aime beaucoup Arnaud de sa mère, Palmade.
Finalement, il y a peu d'artistes ouvertement homo qui font un spectacle, qui font du comique. Donc, il y a aussi un spectacle que tu connais bien. Pour les filles, c'est La Lesbienne Invisible. Que tu
as Océane Rosemary.
Océane Rosemary, oui. Qui est vraiment très drôle.
Ouais.
Je ne sais pas ce que tu en penses.
Tu connais
Alors, j'ai commencé à regarder son spectacle. Et effectivement, j'ai trouvé qu'il y avait une façon de dire les choses. Une jolie forme. Elle a une façon de l'emmener, en fait. Quand elle commence avec le bouquin qu'elle montre à sa fille.
Oui.
Le bouquin avec les taches d'encre et... Sa fille lui répond « Ah, mais ça, c'est une femme avec les jambes écartées. Oh, comment ça ?» Voilà, elle joue une espèce de mère un peu cato, un peu comme ça. Et j'ai trouvé ça très drôle, parce qu'au final, moi, c'est ce que je montre aussi un peu, quelque part. Le but de l'humoriste, c'est peut-être d'interjecter les gens, les interpeller, mais parfois, ils le font, les humoristes le font de... C'est très crochu, et je pense que nous, notre mission, c'est justement de faire passer la... Pas de faire passer la pilule, je pense qu'on peut appeler ça une pilule. On connaît pas ça, nous, la pilule, mais... Non, je sais pas si on peut appeler ça une pilule, mais c'est une façon de faire passer les choses de façon très belle, je trouve. Elle a une belle mise en scène, en plus, un beau décor, c'est très simple, c'est très efficace.
Alors, c'est vrai que les comiques ouvertement gays, ou qui jouent là-dessus, il n'y en a pas beaucoup. Alors, il y a quelqu'un d'assez emblématique, je trouve, c'est Pierre Palmade. Mmh. Je sais pas, toi, ce que tu penses de Pierre Palmade. Bon, je sais que les artistes n'aiment pas... toujours dire du mal des autres, c'est pas peut-être que tu
en
penses.
Vous me forcez à dire du mal, vu que l'argent.
Non, mais je veux dire, peut-être que tu n'en penses pas du mal, mais moi, j'ai toujours eu du mal, justement, avec lui, par rapport à ça, cette espèce de mal-être qui transparaît, justement, le fait de son homosexualité, ce qui n'est pas le cas chez toi, justement. Chez toi, c'est jubilatoire.
Parce que c'est lui après, Pierre Palmade.
Oui.
Moi, c'est un prétexte pour monter sur scène aussi, cette homosexualité. Et puis, si j'avais pas parlé de mon homosexualité, parce que moi, je suis toujours très intéressé à l'homosexualité en règle générale. Là, je lis un bouquin qui est très intéressant en ce moment. Ce sont des essais de Frédéric Martel, ça s'appelle Le Rose et le Noir. C'est un bouquin qui est sorti en 1996, qu'ils ont réédité en 2013 là, pour faire évoluer justement les essais. Et je me suis toujours très intéressé à ça. Quand j'étais au lycée, j'avais envie de monter j'étais délégué à l'académie, et j'étais dans la commission des discriminations et relations entre les élèves. Et on avait appelé SOS Homophobie pour qu'ils viennent faire... Voilà, donc j'étais très impliqué toujours dans cet esprit de parler, en fait, d'homosexualité. Pas forcément pour faire accepter l'homosexualité, mais d'abord d'en parler. Parce que pour moi, le fait que l'homosexualité soit démocratisée et qu'il n'y ait plus de discrimination, c'est d'abord d'en parler. Plus que de faire la guerre ou du militantisme. C'est très bien, après, que les gens sortent dans la rue avec des panneaux, il n'y a aucun problème. Mais c'est d'ailleurs une façon de se faire entendre. Moi, je pense que voilà, j'avais envie d'en parler déjà, avant tout. Donc, pour moi, c'était la force qui m'a fait aller sur scène, en fait, qui m'a donné l'envie de monter sur scène aussi.
Encore une fois, ma mère, pire comme la guerre, l'enfant. suivant les ruisseaux. Tu le fais de sa baguette, m'entends et me ramène auprès de ceux que j'aime. Pour revoir encore une fois ma mère.
Pluriel gay.
Bon, alors, je tiens à préciser que je ne suis pas responsable pour ce que nous venons d'entendre. Je parle de la chanson. Après ce chef-d'œuvre musical, nous allons reprendre le cours normal de notre émission avec Jeffrey Jordan. Merci Gilles de nous avoir fait subir ce morceau qui, bon, est quand même assez amusant si on écoute ça au second degré. Voilà, en tout cas, Jeffrey Jordan n'est pas complètement parti. Il va revenir. Enfin, il est là virtuellement. Je vais diffuser à présent la deuxième partie de cet entretien qu'on avait eu avec lui. Sa première venue à l'émission, on était le 19 février 2014. Comme le temps passe vite. Donc, la deuxième partie de notre ami Jeffrey Jordan.
Et nous sommes de retour, donc, sur Pluriel Gay. Avec Jeffrey Jordan et mon acolyte Laurence. Donc Jeffrey, il y a une question que je voulais te poser. Tu es venu à Lyon pour faire l'artiste ou quoi?
Tu es venu à Lyon pour faire l'artiste, qu'est-ce qu'il y a? Non, bien sûr.
Voilà, comme tout à l'heure, je me suis un peu emmêlé. Le conservatoire, c'était pas Lyon, c'était l'Auvergne.
Voilà.
Mais toi, tu es venu à Lyon pour le spectacle.
En fait, j'ai fait mes études à la Martinière en graphisme. Et puis. À la fin de mes études, j'ai poussé la porte de l'espace Gerson, puis je suis allé les voir. L'espace Gerson qui est un café théâtre à Lyon. Donc je suis allé les voir et puis à ce moment-là, ils m'ont tout de suite adopté. C'était drôle, enfin, c'était drôle quoi, parce que mon univers leur a plu tout de suite. Donc ils m'ont adopté tout de suite, ils m'ont fait faire des plateaux, des festivals, voilà. Ils ont développé un peu, ils m'ont permis de travailler en fait sur pratiquement 2 ans après. Et je suis resté à Lyon, je suis resté travailler à Lyon après. Voilà, donc en fait, si je suis resté à Lyon après mes études, c'est essentiellement pour ça, parce qu'en Auvergne, il n'y a pas tellement d'établissements ou de lieux pour développer ce genre de spectacle.
Mais l'espace Gerson, t'y es allé comme ça, tout seul, comme un grand?
Un coup de front dans la porte et. Un coup de front et. Ça fait mal. Mais oui, j'y suis allé tout seul. Vraiment, j'ai vu que c'était l'un des cafés-théâtres les plus connus de Lyon, et puis en fait. Faut être quand même vachement culotté. Mais puis quand je reviens en arrière, je me dis que j'ai été quand même vachement culotté parce que je vous parlais du Zénith de Clermont. Il faut savoir que quand même la toute première scène que j'ai fait dans ma vie, c'était au Zénith de Clermont-Ferrand parce que j'avais été sélectionné pour faire la première partie de Michael Gregorio. Et c'est pour ça que je parlais de Michael Gregorio aussi. Et première scène que je fais, 10 minutes devant 3000 personnes quoi. Donc quelque part, quand je reviens en arrière, je me dis. J'étais quand même vachement culotté de présenter des trucs qui étaient tout frais, alors que c'est des... Normalement, on fait ça quand on est bien sûr, quoi, quand on est bien sûr de soi.
Moi, je trouve ça bien, moi.
Ah bah oui, j'ai pas le contraire.
D'y aller.
Ah,
c'est faire, se jeter quoi. Dans l'arène tout de suite.
Faut avoir les couilles de le faire, pardon.
Ouais. Mais j'en ai deux, en plus, c'est pas ça. L'une d'ailleurs, et de l'autre, alors.
D'ailleurs, je voulais poser une question à ce sujet.
Parce que sinon, Laurence, elle a des questions parce que... Moi, je commence à avoir les oreilles qui fument.
Est-ce qu'il y a des directeurs artistiques qui t'ont déjà clairement dit « Non, ce genre de spectacle avec cette thématique-là, c'est pas pour nous, ça nous intéresse pas ».
J'ai eu sur l'ancien spectacle, oui, parce que je parlais pas du tout d'homosexualité. C'était mes débuts. Donc oui, j'ai eu des programmateurs... De Paris notamment, qui m'ont dit que ça marchait, enfin c'était pas possible quoi, ça pouvait marcher sur un ou deux soirs, mais ou sur certains publics, mais Sinon, la plupart du temps, en fait, j'ai la chance d'être... je trouve que, en termes de satisfaction personnelle, en fait, j'ai jamais été démoralisé. Dans le sens où, comme je suis autodidacte et que je commence, en fait, j'ai commencé tout seul. C'est-à-dire qu'on m'a pas expliqué comment ça s'écrivait un spectacle. On m'a pas expliqué comment on mettait en scène un spectacle. Comment fallait parler, etc. J'ai tout appris tout seul. En 4 ans, j'ai tout appris tout seul. Donc, l'avantage, c'est qu'à chaque fois que j'évoluais, on venait me voir en me disant, dis donc, c'est bien mieux qu'avant. Alors que si j'avais démarré très très fort tout de suite, j'aurais pu régresser quoi. Voilà. Donc j'ai eu la chance d'avoir effectivement des programmateurs, des producteurs, des directeurs artistiques qui me disent mais c'est fou, à chaque fois qu'on te voit, c'est de mieux en mieux. Donc ça m'aide, ça me dynamise quoi. C'est ça qui me c'est ça l'étincelle en fait de ce qui m'aide à écrire encore mieux, à écrire encore plus vite aussi parfois, d'être très réactif. Et puis bah, par exemple, je suis très mauvais en impro et plus je joue, plus des fois je m'étonne du fait que ça marche, quoi. L'improvisation, c'est compliqué.
Mmh. Oui, c'est ce que je disais un peu en introduction. Il y a un peu un mélange dans le spectacle de one-man show, mais aussi un peu de stand-up, hein, ce qu'on appelle le stand-up. Il y a une interaction aussi avec le public. Bon, il y a, en fonction, je suppose, des publics et des réactions. Tu ne fais pas toujours la même chose, en fait. Hein, je suppose, ça varie d'un public à l'autre.
Oui, voilà, bah, y a une base qui est écrite, hein, bien sûr.
Ah, oui, bien sûr.
Mais
oui,
après,
oui.
Quand on ne connaît pas la réaction du public, hein, à un moment, je descends draguer quelqu'un, enfin un garçon, pas en l'occurrence, un homme dans le public, et puis je ne sais pas comment il va réagir, parce que des fois, ils réagissent mal. En plus je fais toujours attention de prendre un hétéro. Alors merci Gérald, parce que j'aurais pu que déguer maintenant dans la salle. Les hétéros ne viendront plus me voir. Non, mais j'ai jamais eu de mauvaise réaction, au contraire, même le type que je peux interjecter pendant le spectacle, il vient me voir après, il me dit oh, c'était bien, tu vois. Les gens sont contents là, habituellement, hein, du spectacle. Les gens restent bien, quoi.
Ouais. Alors justement, par rapport à Lyon, tiens, on va revenir un peu au fait de Lyon, en lui-même. Tu es venu à Lyon. Nous, comme on est un peu chauvin à Lyon, on se dit ouais, c'est bien. Ils viennent à Lyon, les petits artistes, super. Ils vont pas à Paris parce que Paris, on a un peu. Pourquoi justement avoir fait ce choix à Lyon alors que beaucoup encore s'imaginent que le spectacle c'est d'abord Paris?
Parce que je suis d'une intelligence remarquable et d'une lucidité. Non. Ils vont croire que je suis...
Il y a beaucoup de gens qui râlent aussi possible. À Paris, je crois.
Et c'est bien pour ça. Ouais. Non, c'est bien pour ça que je n'ai même pas tenté la télévision. On m'a proposé, Ruquier, tout ça. On m'a demandé, mais va le faire, inscris-toi. Voilà. Non, je n'ai pas envie d'aller à
même
Paris.
Même Michel Drucker, t'as refusé, c'est ça?
Oui, j'ai eu Michel hier au téléphone. je suis plus TF1, moi. Non, je plaisante. Non, mais j'ai pas voulu monter tout de suite parce que je savais très très bien que j'étais pas prêt. Très très bien au fond de moi que c'était pas la peine. Faut monter à Paris une fois qu'on va aller. Faut monter à Paris ou faut faire Avignon par exemple, je pense, une fois que tout est bien calé, une fois qu'on est sûr de son coup. Faut pas y aller tête baissée parce que c'est là où on s'en mord les doigts quoi. Des artistes qui partent à Paris, ils restent
ouais, c'est ça.
Quelques temps, puis ils redescendent, quoi, parce que au final, ils n'ont pas trouvé ce qu'ils voulaient. Mais moi, je ne vois pas Paris comme de la célébrité, en fait. Je vois Paris comme une opportunité de continuer d'en faire mon métier, justement. Puisque jusqu'à maintenant, pour l'instant, ça n'est pas mon métier encore, mais ça va le devenir très, très, très vite. Mais je pense qu'il faut pas avoir d'illusions. Paris, ce n'est pas la célébrité. Ça peut l'être, par contre. Ouais. Aucun problème, c'est au contraire une porte qui s'ouvre.
Mais il y a beaucoup de gens qui s'y brûlent les ailes aussi, c'est ça à Paris.
Ouais, et puis la célébrité, c'est une façon de mettre en avant un talent, je dirais. Sur tous les artistes qu'on entend, par exemple, sur les chanteurs, on entend tellement de chanteurs, des nouveaux chanteurs arriver tous les ans. Dans toute l'année, on entend un tel, une telle qui va nous chanter une chanson, qui va sortir un album, qui va faire truc, et après on n'en entend plus parler. Mais ces gens-là continuent leur métier. Ils sont peut-être plus sous les feux des projecteurs, mais ils refont des petites salles, des choses comme ça. Il y a un moment donné où faut pas se leurrer, je crois.
Ouais. Et puis c'est vrai qu'on nous avait interviewé Stéphane Cazet, qui connaît bien la scène parisienne et donc la scène lyonnaise, puisque c'est un des protagonistes de la Comédie Odéon.
Hein, la Comédie Odéon,
la Comédie Odéon. Ou d'ailleurs, il y a un festival qui s'appelle Comic Out.
En juin, tout à fait.
Et il nous disait justement, quand on l'avait interviewé, que Lyon était peut-être une des seules villes en dehors de Paris à avoir aussi un public de théâtre, en général. Hein, des théâtres dans toute l'acceptation la plus générale du terme.
Alors c'est vrai qu'à Lyon, on a quand même, on est chauvin, nous, hein, on a quand même une TNP, on a quand même des institutions. Ouais. Et aussi, il y a de la place donc, pour le café-théâtre, puisque c'est une ville qui est connue justement pour sa scène de café-théâtre.
Il me semble, alors je dis peut-être des bêtises, mais je crois que le plus vieux café-théâtre est à Lyon. Le plus vieux café-théâtre de France, je crois.
Ah, je ne sais pas. Alors ça... Je ne saurais m'avancer aussi
non
loin
non
que toi.
Je crois. Bernard doit le savoir, non ? Si c'est très vieux, non ?
1912, non, non Bernard ? c'était pas là.
Non, Bernard a connu Louis-Philippe, même, mais il ne faut pas exagérer.
Pour le hot club de jazz, oui.
Puis Bernard est un transfuge, il est parisien, donc peut-être qu'il connaît...
C'est pour ça qu'il est derrière la vitre.
Voilà, c'est ça, c'est un aquarium. Il
se mélange pas avec nous. J'avais une petite dernière question.
Oui, vas-y, non, mais même une, deux, si tu veux. Une... Moi j'en ai une encore après.
Ah, il n'a pas fait le tour de Jeffrey Jordan encore, mais
voilà.
Et pourtant j'essaie de mincir. Je vous écoute, Laurence.
Je voulais savoir si il y a beaucoup d'humoristes qu'on appelle un peu des clowns tristes, c'est-à-dire des gens qui sont un peu dépressifs, on va dire, dans la vie, qui ont un regard très noir sur la société et qui se servent un peu de l'humour pour
Ah
un
oui,
peu
je
comme
pense
de thérapie. Donc tu te classes dans cette catégorie-là d'humoriste ?
Non, parce que moi je c'est bizarre, moi je suis quelqu'un de... Alors bon, sans jeu de mots, je suis très gay. Enfin, je suis très joyeux, je suis quelqu'un qui... J'aime faire la fête, j'aime rencontrer les gens. Je suis jamais très, très morose. Par contre, je peux comprendre sur certains moments que les artistes un peu triturés, comme ça, un peu mentalement... le fait de monter sur scène, ça peut être une thérapie... une thérapie incroyable. Parce que quand on est seul, quand on est seul chez soi, par exemple, après la scène, ce qui peut arriver assez souvent... En fait, on n'a plus de retour, c'est fini. On passe d'une espèce d'apothéose et d'une osmose avec les gens, et d'un coup, il n'y a plus de bruit, tout s'arrête. C'est très dur à vivre, ça, en fait. Moi, j'ai eu de l'expérience scénique, mais j'en ai pas eu assez pour le ressentir. Mais je peux comprendre que des artistes, même après, je pense que, Laurence, tu parlais en fait d'écriture, ou même la façon de... Le fait que ce soit une thérapie, en fait, de monter sur scène... Oui, je pense qu'il y a la plupart des humoristes, oui. Oui, oui. Après, je pense que quand on monte sur scène, c'est parce qu'on a une légitimité à le faire, on a envie de le faire. Donc.
Mais toi, pas spécialement, tu te sens pas
plaisir.
Spécialement pessimiste comme certains humoristes ou.
Non. Non, moi je suis très en forme mentalement. y a des jours comme tout le monde hein, où. On a envie de rien faire et où on ferme ses volets et on reste sous la couette. Mais...
Et en revanche, est-ce que tu ressens le trac avant de monter sur scène ? Le fameux trac que, dit-on, ressentent tous les artistes ?
Alors moi, j'ai un défaut, c'est que je n'ai pas le trac.
Ah.
Et je crois que c'est un défaut. Et d'ailleurs, quand j'appelle ma metteur en scène et que je lui dis « Écoute, ce soir, j'avais pas le trac et j'étais pas dedans, quoi. » Et ben, elle m'engueule, quoi. Elle me dit
« Il faut avoir le trac. »
Il faut avoir le trac. Non, mais
il faut avoir mal au bide.
Il faut avoir mal au bide. Il faut se taper la tête contre les murs. c'est un peu ça. Puis,
pas trop fort quand même. Parce...
Mais par contre, je trouve que le début du spectacle, en fait, l'avant, 5 minutes avant et les 5 minutes après, je trouve que ce sont deux moments absolument jouissifs, quoi. Parce qu'on a fini son spectacle. En plus, moi, la fin de mon spectacle est plutôt s'envole, on va dire. Et il y a un côté un peu théâtral, voilà. Donc j'aime cette fin de spectacle. Par contre, là où j'ai le trac, c'est quand j'arrive sur des textes que je connais, c'est-à-dire qui sont rodés, et où je sais que ça va pas forcément marcher. Je sais que 2-3 minutes avant que j'attaque cette partie de sketch, où je sais qu'à ce moment-là, je vais avoir le trac. Là, je vais avoir le trac. Ouais. C'est bizarre, j'ai une petite bouffée de chaleur et il faut maîtriser ça, quoi. Mais c'est un bonheur formidable d'être sur scène.
Alors, une question que je voulais poser, justement.
Oui.
Aussi, parce que la configuration du café-théâtre, donc les tontons flingueurs, fait que tu es un peu surélevé sur la scène, n'est-ce pas ?
Oui, assez peu d'ailleurs.
La scène, voilà. Ouais. Ouais. Et nous, il y a les tables devant, tu vois, puis les gens sont là, assis devant les tables, comme dans un café, hein, tout simplement. Donc nous, on fait face à l'artiste, et l'artiste nous fait face. Et moi, devant, je voyais passer Jeffrey Jordan, et je n'ai pu m'empêcher de me dire, mais quel paquet il a, ce garçon ? Alors, je voudrais savoir si tu mets des rembourrages.
Alors,
ou c'est fait exprès pour
que tu m'enchaînes. Parlons pornographie.
Cette fois, c'est la fin de l'émission, Bernard.
Non, merci.
On coupe tout, c'est fini.
Merci Gérald, merci Laurence d'être venue.
Moi, je suis pour rien.
Non, c'est parce que j'avais mon portable dans la poche.
Ah.
C'est pour ça. Non, alors, je...
Et t'avais pas enlevé le vibreur.
C'est ça. Il me sentait vibrer, Gérald. Bah forcément, il est au premier rang. Non, mais au premier rang, ça fait comme les fisheye sur appareil photo, ça grossit. On peut pas se mettre au premier rang, ça fait qu'une bouteille. Non, ben, je vais vous dire pourquoi, Gérald. Oui. Attendez, pour qu'on parle sérieusement, parce que c'est une question intéressante. C'est parce que j'ai mis un slim. Ah. Moi, je mets des slims sur scène. Je suis pas très complexé par mon physique, on va dire, mais je suis assez complexé de mes jambes. Je suis quelqu'un qui est très complexé de mes jambes parce que je suis petit et je me trouve trapu. Alors, donc ami de la poésie, bonsoir, avec ce que je vais dire par la suite. Donc, ce que je fais, c'est que pour affiner un peu tout ça, je mets des slims. Les slims, ça sert un peu. Non, non, mais je vous rassure, Gérald, je ne suis pas disproportionné.
Bon, cela, évidemment, n'enlève rien à l'intérêt du spectacle.
Ah, ben, je vous... j'espère bien. Allez voir Jeffrey Jordan, il y a un gros paquet. Oh, bah, dites donc.
D'ailleurs, prochain spectacle, ça sera Jeffrey Jordan, mais le paquet.
Mais le paquet, ah, bah, voilà. Non, parce qu'après, j'ai Bigard qui va s'en mêler.
Ah oui, c'est vrai.
C'est déjà
là.
Fait.
Ah,
c'est déjà
zut, fait. Je me disais, à quelques... Non, ça pouvait
je
pas
être obligé d'avoir des vannes vulgaires.
Ouais, ouais.
Non,
ouais,
il y en a. Il y en a dans le spectacle, des vannes vulgaires.
Hein?
Il y en a dans le spectacle.
Dans ton spectacle?
Dans mon spectacle, il y a des vannes vulgaires un peu. Mais les gens aiment bien, les gens aiment bien être surpris, je trouve. Isabeau Deher, elle rentre sur scène et elle dit Vous connaissez Isabeau Deher, non?
Oui.
Oui, vous connaissez. Elle dit je ne sens pas de la chatte. Ouais, je trouve ça génial. Quoi. C'est extrêmement surprenant. Donc il y a des fois, j'aime bien surprendre le public comme ça. J'arrive avec mon élégance, comme ça. Et au final, en fait, c'est. Il y a des passages un peu dégueux. Mais forcément, le public est voyeuriste, il a envie de voir ça. Il regarde la télé-réalité, il peut bien voir Jeffrey Jordan faire faire un gros paquet.
En tout cas, on rit. On rit, c'est essentiel.
Ah,
parce
on
que...
rit, on rit. Ouais.
Qu'est-ce qu'on rit?
Déjà
qu'on...
là, on se marre bien.
Pas seulement, d'ailleurs. On en a pas parlé, d'ailleurs, du passage émotionnel.
Ah oui, c'est vrai, oui. Il y a,
il y a quelques petits passages.
Un petit côté, oui. Il y a l'émotion.
Petit passage d'émotion. Non,
c'est
non
visuel en même temps. Hein. Il y a...
Ne dis mot.
Hein?
On ne dit mot. C'est un passage...
Oui, on se tait.
On se tait.
On ne dévoile pas tout.
Ah ben non.
Voilà. Merci en tout cas de Jeffrey d'être venu.
Mais merci, c'était un bonheur.
Bah oui, évidemment. Il dit ça en regardant Bernard,
ouais,
je sais
même
pas.
Pas nous.
Ouais, nous on passe à la...
Mais il est sexy, c'est... Bernard. Il me ramène en voiture après. Faut que je dans la poche parce que sinon il me laisse sur le bord de la route.
Quel vénard ce Bernard.
Tout à l'heure, Bernard. Merci à vous, merci Laurence et Gérald.
Chanson de gestes, chanson de mots, ne faites pas la tête ni le gros dos. Chanson benette, chanson fado, la la la, yo, c'est la chanson de Léo. Léo, 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 Léo. Léo, Léo,
il voudrait être un héros.
Léo, Léo,
a une manie.
Léo, Léo,
une anomalie.
Léo, Léo,
depuis tout petit,
il voudrait être un héros.
Léo, il est ni laid ni beau et boit du lait ou de l'eau. Mais Léo a un petit défaut. Il aimerait bien. Sable les oraux, Léo a en photo les aventures de Ménure et les habits de Superman. Mais Léo ne l'aime pas, c'est bien le drame.
Léo, Léo
a une manie.
Léo, Léo,
une anomalie.
Léo, Léo,
depuis tout petit,
il voudrait être un héros.
Léo tenace suit les traces de tous les méchants qui passent. Léo menace, fait la chasse et l'on ne compte plus les vilains que Léo y tue. Léo lit toutes les nuits des histoires de bandits. Oui, mes amis, dit Léo dort, rêvant qu'il est le plus beau, le plus fort.
Léo, Léo
a une manie.
Léo, Léo.
Et à la barbe du Zorro, Léo est devenu héros. Le héros de la chanson de Léo. Le héros de la chanson de Léo.
Le héros de la chanson de Léo.
Léo, Léo a une manie.
Léo, Léo,
anomalie. Léo, Léo, depuis tout petit,
il voudrait être un héros.
Léo, 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 Léo. Ah, chanson bébé de chanson bidon. Léo, 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 Léo. Ça y est, c'est fini.
Pluriel gay.
Eh bien non, ce n'est pas fini justement, parce que les quelques minutes qui restent à être ensemble, je vais diffuser quelques extraits des chroniques justement de Jeffrey Jordan que Jeffrey Jordan a fait pour nous. Avant de nous séparer, je voudrais aussi quand même donner un peu les infos de Jeffrey Jordan. Il est tous les mardis à 20h30 au Tonton Flingueur, donc si vous voulez le retrouver au Tonton Flingueur, c'est tous les mardis jusqu'à fin décembre à 20h30 et ensuite à partir de janvier, il sera dans la même salle des Tontons Flingueurs les samedis. Vous pourrez également le voir à la salle de la Ficelle à 18h le 31 décembre pour bien commencer les festivités de fin d'année. Et puis pour ceux qui seraient à Montréal l'été prochain ou alors qui voudraient absolument suivre Jeffrey Jordan dans cette tournée, et là ce serait plus de l'amour mais de la rage, il va se retrouver donc en juillet 2016 au festival Juste pour Rire à Montréal. Ensuite, je voudrais quand même préciser également que notre Jeffrey Jordan nous fait des petites, comment dire, j'ai perdu le mot, enfin vous voyez ce que je veux dire, hein, des pas gentils quoi, il va avoir ailleurs aussi ce qui se passe, il n'y a pas que chez nous qui fait des chroniques, et, des infidélités, voilà, ça s'appelle des infidélités. En fait, des infidélités télévisuelles, donc on lui pardonne, parce qu'on peut le voir tous les mardis à 20h45 sur une chaîne MCE, alors je vous laisse découvrir comment capter cette chaîne, la chaîne de télévision MCE, dans une émission qui s'appelle En mode apart. Jeffrey Jordan chronique également, fait des chroniques et des sketchs au milieu d'autres personnes. Il n'est pas tout seul, mais il est là, il a son petit show à lui. Voilà, donc MCE, c'est une chaîne de télévision. Étudiante d'ailleurs. Voilà, donc ce qu'on va faire, on va écouter un peu les chroniques de Jeffrey Jordan pour terminer, des extraits. Alors il nous en a fait plusieurs, on a eu du mal à choisir finalement parce qu'elles sont toutes très bien. Alors du coup on a un peu hésité, il en avait fait une sur Boy George qui était sympa, mais du coup on en a pris d'autres. On en a pris d'autres qu'on va écouter maintenant. Il faut savoir aussi que Jeffrey Jordan, je parlais de ses faits d'armes pour la radio, il a été envoyé spécial pour nous, et entre temps, depuis cette date là du 19 février 2014 qui était la première émission que nous avions fait avec lui, il est parti comme ça en envoyé spécial au tournoi international de rugby gay de Lyon, l'OVA Lyon, voilà, où on lui a refusé l'entrée des douches d'ailleurs, je ne comprends pas pourquoi et je suis encore scandalisé. Ensuite il nous a fait aussi une infiltration, oui une infiltration, il a infiltré les fameuses soirées Garçon Sauvage, donc pour nous il a joué les espions, voilà, on l'avait envoyé là-bas en live, comme ça, en roue libre. Il a beaucoup mouillé la chemise pour nous, Jeffrey Jordan. C'est pour ça que nous lui devions cet hommage. Et c'est pour ça que nous allons diffuser encore, avant de nous quitter, des extraits de deux chroniques qu'il a réalisées pour nous. Une chronique de février 2015 et une autre chronique de mai 2015. La dernière chronique concernant... Donc, c'était une émission consacrée au numéro, à la centième parution du mensuel Hétéroclite. Voilà, donc on va commencer par donc la chronique du 18 février 2015 et ensuite ça sera celle du 6 mai 2015 concernant Hétéroclite. Bonne écoute et puis à la semaine prochaine, nous nous retrouverons en direct live la semaine prochaine, aux mêmes heures, sur les mêmes ondes, etc. Pour le reste, si vous voulez plus de renseignements sur Jeffrey Jordan, je mettrai tous les renseignements sur ma page Facebook et également vous allez sur le site plurielgay.fr et là vous avez une petite vignette qui s'allume dans laquelle se trouvent plein d'infos et entre autres les infos de l'actualité artistique de Jeffrey Jordan. C'est parti, écoutons donc les dernières chroniques de Jeffrey Jordan. Donc Jeffrey Jordan, on parlait de ta nymphomanie réelle ou supposée tout à l'heure.
Vous ne saurez pas.
Voilà. Mais en attendant, régulièrement, quand tu viens à l'émission, tu nous expliques que tu t'es envoyé en l'air. À chaque fois, il s'envoie là. Donc on peut quand même supposer que oui, tu as quand même la jambe un peu leste.
Et pas que la jambe, mon cher.
Et pas que la jambe. Et du coup, voilà, là, cette fois-ci. Alors j'ai su, par oui dire, par toutes les rumeurs qui tournent autour de toi, que cette fois-ci, tu t'es envoyé à l'air avec un certain Christophe. Alors. Un inconnu, cette
fois-ci. Ah oui, Gérald, oui, mais absolument. Ah. Enfin, il n'a pas pu venir ce soir, hein, malheureusement. Ah. C'est... Oui. Oui, parce que figurez-vous que j'étais à Marseille la semaine dernière à l'occasion de ma tournée triomphante. Ouais. Alors, pour partir, j'ai pris un Ouigo. Vous connaissez les Ouigo, hein, les fameux trains low cost de la SNCF. Alors, c'est pratique parce que tu peux faire Lyon-Marseille pour 10 euros. Mmh. Enfin, le problème, c'est que les Ouigo, ils partent à 6 heures du matin. Donc, tu te lèves à 4 heures, t'as à peine dormi. T'arrives à la gare à 5h40, il y a déjà une queue de 3 km. Alors, je dis ça, pourtant, d'habitude, moi, je ne crains pas spécialement la queue. Mais là, c'est très pénible parce que t'es obligé de te mettre en rang sur le quai. Ils te contrôlent avant de monter dans le train. Tout le monde fait la gueule, oui, parce que ça fait chier d'être pauvre, hein, quand même. tout le monde fait la gueule en silence, parce que tout le monde sort du lit alors qu'il fait encore nuit et qu'il fait un froid glacial. En plus, avec le nouveau plan Vigipirate, t'es surveillé par des militaires avec des bergers allemands. En gros, t'as l'impression que tu pars à Dachau, tu vois. Bon. Non, mais vraiment. Il faut savoir que, à la base, ce sont des vieux TGV qui ont été repeints en rose et bleu turquoise. Alors, de l'extérieur, t'as l'impression que tu vas monter dans un char de la Gay Pride, c'est sympa. This is the rhythm of the night. Mais enfin, à l'intérieur, ça a beau être un TGV, il n'y a même pas de wagon-bar. Oui, donc si par exemple t'as envie de te faire un petit déj tranquille, c'est foutu. De toute façon, t'es pauvre, t'as pas d'argent pour t'acheter un croissant à 8 euros. Hein. Alors, j'ai remarqué une chose. Quand je suis arrivé à Marseille-Saint-Charles, 4 paraboles sur chaque balcon, j'ai cru que j'arrivais sur un site de la NASA. Et alors, j'ai remarqué qu'à Marseille, il y avait de très très beaux... Des très très beaux... Ah si, c'est connu à Marseille.
Des rebeux.
Des très beaux arabes, voilà, exactement. D'ailleurs, c'est étrange qu'il y ait autant d'arabes si près d'un port. Enfin bon. Oui, c'est une vanne que je ne referai plus. Arrivé, je me pose dans une brasserie, histoire de me faire un petit déjeuner copieux, tu vois. Alors, naturellement, j'allume Grindr, hein, Gérald. Vous connaissez pas Grindr, vous? Ben non, vous êtes une jeune femme mariée, vous, hein, Gérald. Oui, d'ailleurs, on embrasse Gilou, hein, puisque je sais qu'il nous écoute. Bisous, Gilou. Tu le connais, Laurence?
Oui, je connais Gilou.
Ah oui, moi, je l'aime bien, Gilou, parce qu'à chaque fois que je le vois, il a toujours le sourire au visage, t'as vu? Quelqu'un qui sourit tout le temps. Je trouve qu'il ressemble un peu à Winnie l'ourson, non? Tu trouves pas? Alors, pour nos auditeurs qui connaissent pas Gilou, vous pouvez le voir en tapant Gilou sur Google, hein. Vous pouvez le trouver en page 467, je crois. Voilà. Oui, si. Sur une photo, vous êtes tous les deux, d'ailleurs, Gérald. Oui, quand vous étiez à quatre pattes. Bon, donc j'allume mon Grindr. Et Grindr, je trouve que c'est vraiment un super jeu pour les hommes, un jeu de mal. D'ailleurs, ne dit-on pas un jeu de mal, des jeux de mots. Hop, parfaite mise en abîme. Tac. Ris, Laurence, ris. Bon. Bien. Et là, t'as vu, je fais bien le bruit du message Grindr. Hein. Oui. Hop, tu reçois un message. Bon, alors je reçois un message d'un certain Christophe.
Ah oui.
Plutôt charmant d'ailleurs. Salut, ça va? C'est concis. Circoncis même apparemment selon ses photos. Alors bon, je commence à lui répondre mais je m'aperçois que sur son profil c'est marqué 1m20. Alors j'hésite quand même à lui répondre parce que je me suis imaginé avec un mec d'1m20 dans la rue, t'as l'air con. Ah non, en fait c'était la distance, pardon. Pardon, 1m20, il était derrière moi, ça commençait bien. Alors bon, on discute du coup autour d'un café, puisqu'on était à côté, hein, donc il me dit qu'il est arrivé à Marseille il y a quelques jours après avoir été très très longtemps le coiffeur officiel de Marine Le Pen, dis donc. Oui, et donc son conseiller en image. Bonjour madame, asseyez-vous devant la glace. Bon alors les cheveux jaunes comme ça c'est dégueulasse. En plus avec l'odeur qu'ils ont, on dirait que vous avez foutu de la moutarde. Je vais vous faire un petit carré dégradé, hein. Bon les dents, faut faire quelque chose, on se croirait dans la bouche d'un requin. Arrêtez de sourire, vous me faites peur. Et cette voix cassée, on croirait presque avoir un cancer. Bon alors, moi ce que je vous propose, c'est pas un coiffeur ni un chirurgien esthétique, c'est carrément un chef de chantier. Bon, partant de ses nombreux constats, il a des rêves plein la tête, hein. Ils lui ont poussé plein la tête, ses rêves. Bon, et les rêves à coiffer, c'est pas très simple, hein, évidemment. C'est assez imperméable à la laque et ça supporte pas trop les shampoings aux œufs. Son rêve à lui, c'était devenir un élu du Front National. Je trouve que ça sent l'œuf quand même un peu. Non, bon. En tout cas, depuis la semaine dernière, il a quitté le Front National dont il était bénévole, le petit Christophe. Ce soi-disant, il se faisait harceler sexuellement par des cadres du parti. Oui, parce qu'apparemment, la plupart sont bien de la jaquette. Hein. Oui, quand les partisans de l'opposition Disco FN se sont, je cite, des enculés, maintenant je veux bien les croire. Bon, pour devenir un joueur de pipeau, Christophe a très vite compris qu'il fallait d'abord savoir jouer de la flûte.
Et ça, non, il n'était pas d'accord. Non.
Conclusion, si vous voulez entrer dans la politique, c'est la politique qui risque de vous rentrer dedans et pas forcément par le front.
Wow, bravo. Dommage, il n'y a pas les applaudissements, mon petit Bernard. Vous avez mérité au moins une
Il n'est pas au taquet, oui. Bernard.
Non, il n'est pas au taquet. Voilà.
Ah, bah, je suis d'accord.
Non, mais,
ça vaut pas mon bruitage du message Grindr.
C'est excellent.
Très bien, mon petit Jeffrey. Très mais bien. Il t'arrive vraiment toujours des aventures extraordinaires.
T'as vu,
des
trucs.
Ouais. Ça n'arrive qu'à lui.
À chaque fois qu'il sort chez lui. Oui, ça n'arrive qu'à lui. Puis à chaque fois qu'il sort, tac. Chez lui, il se passe quelque chose.
Tac.
Extraordinaire.
Bim.
Et dans les Ouïghours, il y a quand même des fauteuils, rassure-moi.
Oui, il y a des fauteuils.
On
ne
voyage pas
de non, mais on est entassés, on est 173 dans des wagons.
D'accord. Enfin,
c'est bien parce que c'est pas cher. Enfin, bon,
dans quelques années, après le succès, hein, tu auras ta limousine et ton chauffeur.
J'aurai mon avion.
Exactement.
Ton avion, ton privé. Jet privé. Voilà.
Et je ferai les chroniques par téléphone puisque je serai à Las Vegas.
Très bien.
Voilà, exactement. Je vois bien que ton petit téléphone, tu sais, rose avec des certis de Strass.
Oh, bah certainement. L'écran est complètement pété.
C'est excellent.
C'était Jeffrey Jordan.
Merci.
Très drôle, très bien écrit, j'adore.
Ouais.
C'est pour ça qu'il faut aller le voir, d'ailleurs, en spectacle. Voilà. On ne le dira jamais assez. Nous sommes de retour dans les studios avec Romain, Jeffrey, ma petite Lolo à mes côtés. Alors Jeffrey, on ne t'a pas beaucoup entendu depuis le début de l'émission.
Non, mais j'écoute, hein. je suis calme, j'ai dit aujourd'hui.
Tu te cultives, tu apprends des choses, voilà. Et du coup, parce que bon, par t'envoyer en l'air, tu fais quoi, hein? C'est vrai.
Oh, aussi beaucoup de choses quand même.
Quand même.
Mais je fais exprès de venir m'envoyer en l'air ici.
En fait, tu t'envoies en l'air spécialement
dans tout le monde.
Pour l'émission.
Oui, spécialement pour l'émission. Mmh. Ben, je suis missionné par Gérald, il ne vous le dit pas, mais
voilà.
C'est lui qui me dit à chaque fois.
C'est le missionnaire de l'émission. Je n'en dirai pas plus. Et du coup, bah, cette fois-ci, donc, tu t'es envoyé en l'air avec le centième numéro d'Hétéroclite. Alors ça... Je me demande bien ce qui est devenu le centième numéro d'Hétéroclite après s'être envoyé en l'air avec lui, quoi.
Ah oui, Gérald. Bon, enfin, il faut dire qu'il est bandant. Il est bandant, ce numéro 100, non? Sa couverture avec ses trois mannequins, mi-homme, mi-dieu, en sous-vêtements, petit bateau. Petit. La douceur délicate de son papier recyclable, ses couleurs arc-en-ciel, ses chroniques divines, et alors son odeur. Son odeur, comme on rit au fromage d'un supermarché. Et moi, j'aime le fromage, Laurence. J'aime le fromage. Pardon, excusez-moi, c'est l'effet que ça me fait quand j'ouvre un hétéro. Hétéroclite, pardon. Non, parce que c'est l'effet que ça me fait quand j'ouvre un hétéro, c'est un poil vulgaire. Même si je ne crains pas tellement les poils au passage. Hashtag, t'es sexy avec ta barbe. C'est vrai, j'aime bien les poils, oui. Alors, on pourrait sortir ensemble, Laurence, d'ailleurs. Hein. Ah non, c'est vrai, vous n'avez pas de compte en Suisse. Alors, j'entends ce que vous pensez, Gérald. Il évite le sujet en parlant des poils de Laurence, mais que nenni, je me suis parfaitement envoyé en l'air avec Hétéroclite. Et là, avec toute la rédaction, figurez-vous. Oui, Guillaume Menu, Émilie Bouvier, Guillaume Volbang, Céline Miret, Stéphane Caruana, Pascal Clavel, Didier Rosbettoni, Antoine Hidier, Florence Blanc, Morgane Castillo, Julien Royer, Frédéric Gechter, et aussi avec... Top, je suis un être vivant de la famille des êtres humains de la catégorie des journalistes. J'ai peut-être des tics et parfois des tocs, curieux de tout, je passe du tac au tac d'un événement à l'autre. Je me couche tard et me lève tôt. Je me nourris principalement de tic-tac, de steak tartare et de tarte tatin. J'aime les films avec Audrey Tautou, mais je n'ai pas de tatou. Je suis le totem de l'actuel LGBT en Rhône-Alpes et le rédac chef d'un mensuel gay. Petit, je suis déjà des tétines. Aujourd'hui, on me considère comme le tintin des tatas. Je suis.
Romain Vallée,
je dis oui.
Ouais, mais il y avait pas le
Romain buzzer. Vallée du Rhône, si vous me permettez cet excellent jeu de mots. Ça vous a rappelé quelque chose, ce petit passage, non? Hashtag question pour un champion. Bon, inutile de vous cacher, on vous a vu, Romain, on vous a vu. Bref, quand j'ai eu Gérald au téléphone pour lui demander quel serait le thème de la prochaine émission, je me suis senti obligé de m'envoyer en l'air avec toute la rédaction. Et je vous cache pas que je suis un peu crevé, hein. Mais c'était très sympa, un peu comme pour un stage de cuisine, vous savez. Égoutte-moi le cornichon, fais sauter les oignons, secoue-lui le poireau, tâte un peu les melons. Bon, jusque-là, rien de bien méchant. Hashtag Carole Rousseau. Mais c'est au moment de sauter de l'avion que j'ai eu la trouille. Hashtag parachute, Gérald. Ah oui, mais vous ne pensiez tout de même pas que j'avais couché avec toute la rédaction de... Mais vous êtes complètement malade, Gérald. Hashtag va te faire soigner. En s'envoyer en l'air ne veut pas forcément dire qu'on a fait des cochonneries. En revanche, un grand saut en parachute par 12.
Ah.
Vous avez compris? Bon, d'accord.
Ah oui.
Vous l'avez vu, ce magnifique film de Vincent Beaujon, hein, oui. Ces 5 héros, 5 hommes séropositifs qui sautent en parachute. La réalisation est époustouflante. Le projet au départ, c'est de les faire sauter en parapluie, hein. Bon. Mais comme la météo était plutôt clémente, ils n'ont pas jugé utile de les embêter avec quelconque accessoire. D'abord parce que ça ralentit considérablement la chute, et surtout parce qu'après le voile du parapluie se replie sur... Enfin bon, là n'est pas la question. J'en ai donc profité pour ouvrir et lire un Hétéroclite qui à la base ne devait pas s'appeler Hétéroclite. Ah non, ils ont cherché plein de titres, hein, pendant longtemps. Homoclite, bon. Puis Homme Clito, mais ça faisait un peu trop transgenre. Alors hop, Hétéroclite. Et je dois vous avouer que j'étais un peu déçu. Ah oui, il parle même pas de la fracture chez les Le Pen. Marine veut tuer le père. Franchement, ça aurait été un sacré coup de pied pour Amélie Nothomb. Oui, hashtag j'ai des références. Bon, ça ne parle pas non plus du séisme au Népal. Hashtag on va bouger. Et pas un seul article sur les naufragés libyens. Bah, je veux bien que vous n'y compreniez rien à la construction navale, mais quand même. Faites-nous rêver un peu, mince. Hashtag tout cela est très mauvais goût, oui je reconnais. Oui je sais, il y a beaucoup trop de hashtags depuis le début de cette chronique, je ne sais pas vous, mais moi je n'aime pas trop le hashtag. Entre nous, il est loin d'être partisan de la belle syntaxe et la littérature. Il connaît ni les espaces, ni les accents, ni les ponctuations le mec. Et puis c'est dur à lire un hashtag, c'est long parfois, même si j'éprouve rarement une quelconque réticence aux choses longues et dures habituellement. Oh ça va! Vous l'attendiez celle-ci, Gérald. Hein, vous aimez quand je suis un peu coquille. Bon, bon. Alors, cher Romain, c'est le 100e numéro d'Hétéroclite ce mois-ci. Je ne sais pas quelles sont vos affinités avec le hashtag, mais si j'ai un conseil à vous donner, n'hésitez pas à prendre de l'espace, à ponctuer vos propos et à mettre l'accent sur les mouvements sociaux, la culture, les événements LGBT. Continuez à faire couler de l'encre pour les 100 prochains numéros, pour à votre tour protéger le journalisme et que notre communauté reste vivante.
Bravo,
merci. Mais il est sourd.
On dirait un cryptage Canal Plus.
Il est saoul.
Le samedi soir. Bon.
Mais il est saoul quand
c'est
même.
Bon.
Ce Jeffrey. D'ailleurs, on devrait crypter parfois, justement.
Pluriel gay.